L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Norbert Schwab, le président de la CEJAL, la Société pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine, à propos du 47e colloque de la CEJAL qui aura lieu les 7 et 8 février 2026, ici au Centre communautaire de la paix, autour de la thématique « Les femmes dans la société juive d'Alsace ». Lorraine, tout un programme. Norbert Schwab, bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter la société d'histoire? Avant, c'était la CEJAL, qui est devenue aujourd'hui la CEJAL.
Tout à fait. La CEJAL est donc une vieille société, puisqu'elle a été fondée au début du XXe siècle pour protéger le patrimoine juif alsacien et lorrain et éviter que celui-ci ne parte à l'étranger, notamment à Berlin, où il y avait un grand projet de musée juif pour l'ensemble de l'Empire allemand. Depuis, la CEJAL a créé une très grande collection qui est déposée au musée alsacien d'objets juifs. Et la CEJAL a comme mission de valoriser le patrimoine et de faire connaître l'histoire et les coutumes des juifs d'Alsace au plus grand nombre et au plus grand public possible.
Donc patrimoine matériel, immatériel également, et ce sont des questions que vous posez, là c'est un colloque, vous faites venir différents intervenants, on va y venir, hein. On va donner le détail de ce colloque. L'idée c'est d'amener des réflexions autour de thématiques, là en l'occurrence c'est la place de la femme, pas dans le judaïsme, dans la société juive, depuis le Moyen-Âge.
Voilà, alors notre idée c'est de parler de la place de la société, de la femme dans la société juive en Alsace-Lorraine. Alors on aurait aimé avoir plus de temps, plus d'intervenants, mais on est contraint, on est obligé de faire des choix. Et puis, on est obligé de tenir compte également des disponibilités des uns et des autres. Ce qui fait que, finalement, la période qu'on va couvrir, ça va être du Moyen-Âge jusqu'à l'époque actuelle, jusqu'à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec les différents intervenants qui vont venir. Alors, il y aura deux types, en fait, d'interventions. Il y aura quelques interventions, je dirais, qui sont thématiques, où on va véritablement étudier une période. Il y aura Madame Elisha Baumgarten, qui nous parlera de la femme juive au Moyen-Âge. Et puis, il y aura également Jean-Pierre Lambert, qui nous parlera, lui, de la place des femmes dans les synagogues. Et on va se rendre compte que c'est pas quelque chose qui était gagné d'avance, que la place des femmes dans les synagogues, ça a été une longue évolution, pour dire un long combat. Et à côté de ces approches thématiques, on va mettre en lumière un certain nombre de destins de femmes, célèbres ou non, qui ont vécu dans notre région au cours des derniers siècles et qui chacune illustre un aspect de cette vie des femmes en Alsace-Moselle.
On a souvent l'impression que la place des femmes dans n'importe quelle société, communauté, est assez contemporaine, que le féminisme date des années 60, alors que ça a été un combat qui a toujours été mené par les femmes depuis le Moyen-Âge pour s'ancrer, pour trouver sa place et pour gagner des droits.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de combat ou de féminisme. Je pense que d'abord, l'une des idées qui m'a motivé pour faire ce colloque, c'est de rendre d'abord hommage à toutes les femmes qui sont présents dans nos communautés, qu'on ne voit pas toujours, qu'on n'entend pas toujours, mais sans lesquelles, finalement, ces communautés n'existeraient pas. Alors, on met en avant les rabbins, on met en avant les présidents, on met en avant les hommes, mais derrière chaque homme, il y a une femme, il y a sa femme. Et elles jouent un rôle extrêmement important dans la transmission du judaïsme. Et c'est aussi une des idées, c'est-à-dire qu'à travers ce colloque, on veut leur rendre hommage, on veut montrer qu'elles ont toujours joué un rôle dans la communauté. Alors, ce n'est pas forcément un rôle de dirigeante, mais qu'elles ont eu leur place et qu'elles ont finalement vécu toutes les vicissitudes de l'histoire juive en Alsace, Moselle et d'ailleurs dans le monde entier.
La transmission de la religion juive, c'est par la mère, c'est par la femme.
La transmission de la religion juive, c'est par la mère.
C'est la place la plus importante.
C'est la plus importante, c'est la mère qui donne la judaïté. Mais au-delà du fait, je dirais, technique, c'est aussi les femmes qui ont un rôle important dans l'éducation, dans la transmission. Après tout, une des formes de la transmission, une des formes de notre patrimoine, c'est également la cuisine. Alors, on n'en parlera pas tellement cette fois-ci, mais la cuisine, c'est finalement le rôle des femmes. Et à travers les recettes que nos mères, nos grands-mères nous ont léguées, c'est tout un pan de notre culture et notre histoire qui existe également.
Ça a été longtemps, vous le disiez, hein, le rôle des femmes. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus partagé, lié à notre époque contemporaine.
À l'évolution, c'est sûr que le dernier siècle a vu certains bouleversements de la place des femmes, avec des femmes qui sont de plus en plus présentes dans la vie culturelle, dans la vie cultuelle. Elles jouent un rôle et on va vers une évolution qui est également une évolution vers une forme d'égalité entre les hommes et les femmes. dans la société, dans toutes les sociétés, y compris dans la société juive alsacienne.
Les combats sont les mêmes, quel que soit aujourd'hui. Alors, on parlait de combat, vous n'aimez pas ce mot, j'ai bien compris, mais la place qu'elle peut prendre dans une communauté, aujourd'hui, c'est... peu importe la communauté, les peu femmes ont toujours eu besoin de se battre pour
gagner une place. Il y a eu, alors on va reprendre le mot combat, je vais reprendre le mot combat. Voilà. Les femmes se sont battues, en tout cas depuis le 19e siècle, pour retrouver une place qu'elles avaient peut-être dans le passé. Et après tout, c'est l'héritage également de la culture européenne, et pas seulement, qui fait que les femmes ont été mises un peu au second plan, 18e, 19e siècle, société bourgeoise, les femmes, la femme au foyer, et puis les hommes sur la place publique. Et il y a eu, dans toutes les communautés juives, il y a eu des mouvements avec des femmes qui ont revendiqué, même des femmes religieuses qui ont revendiqué une plus grande place, un accès à l'éducation et progressivement à prendre une place dans la vie communautaire, dans la vie juive. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Israël, où de plus en plus de femmes jouent un rôle dans la vie juive.
Quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur les femmes rabbines dans la communauté libérale, par exemple? Ça, c'est juste en aparté, on viendra sur le programme de votre colloque après.
Alors, moi, je suis ouvert à toute évolution. Alors, face au judaïsme libéral, j'ai un certain nombre de réflexions personnelles qui font que je n'y adhère pas forcément. Mais je pense que même, et ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que même au sein du judaïsme orthodoxe, il y a une évolution, il y a... En Israël notamment, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des rabbanites qui sont formés dans un cadre juif orthodoxe et qui prennent en charge ou en cas qui participent à l'animation de communautés orthodoxes. Et je trouve que c'est une évolution qui me paraît extrêmement intéressante.
Première conférence, ce sera le samedi 7 février à 19h45, Shabbat oblige évidemment. Ce sera donc par Elisha Baumgarten, les femmes juives au Moyen-Âge.
Voilà, Elisha Baumgarten a publié un ouvrage qui n'est pas disponible en français, un ouvrage qui est disponible en hébreu et en anglais, où elle a travaillé sur le statut des femmes juives au Moyen-Âge. Et alors là, j'avoue, je n'ai pas encore lu son livre. Et donc, ça va être une découverte pour nous de voir quelle est la place réelle qu'occupaient ces femmes entre ceux qui imaginent que les femmes n'avaient aucune place et puis ceux qui prennent conscience que, quand même, il y avait quelque part une place pour les femmes. Il y a cette fameuse histoire des filles de Rachi qui étudiaient avec leur père, même si c'était, selon certains, derrière un rideau, et qui ont, avec leur mari, qui ont permis de créer l'école des Tosafis, qui sont les grands commentateurs du Talmud à l'époque, au Moyen-Âge, justement.
La transmission familiale passe certainement par les femmes.
Également, oui.
La transmission orale. On retrouve ensuite Jean-Pierre Lambert. La place des femmes dans la synagogue.
Voilà. Alors, Jean-Pierre Lambert est un grand spécialiste des synagogues et notamment, il travaille sur l'évolution des synagogues du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Et notamment, il travaille sur la redécouverte des synagogues ici en Alsace du 18e siècle. On ne sait pas qu'il y avait à peu près 150 synagogues au 18e siècle. Celles que nous voyons sont celles du 19e. Mais il y avait des synagogues au 18e siècle. Et quelle était la place des femmes dans ces synagogues? Alors, ça va de rien à progressivement une place. Et il suffit, en suivant l'évolution de l'architecture, on arrive à retrouver cette évolution des femmes qui, après avoir été exclu, souvent pour des raisons purement matérielles, quand on a des toutes petites communautés, comme c'était le cas en Alsace, où il faut se déplacer à 4-5 km tous les Shabbats pour réussir à voir un minyan, les femmes restaient à la maison avec les enfants. Et donc, dans ces petites, toutes petites communautés du 16e, début du 17e siècle, les synagogues ne prévoient pas de place pour les femmes. Et c'est progressivement au 18e siècle que ce que nous connaissons, c'est-à-dire un espace aménagé pour les femmes, se met en place dans les synagogues. Et ça se développe au 19e siècle et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Pour rappel, ces conférences sont libres d'accès, sont gratuites. Évidemment, elles sont réservées aux membres de la communauté. C'est un petit peu
compliqué. Non, elles ne sont pas réservées.
Il faut s'inscrire alors.
Même pas s'inscrire. Les gens qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire. On n'a pas de site d'inscription. C'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés peuvent venir le 7 et le 8 février pour suivre ces conférences.
Le dimanche matin, à partir de 9h, on retrouve Aude-Marie Certain.
Alors non, il y a un petit changement parce que ça change tout le temps. Mon programme, je n'arrête pas de le modifier. Je n'ai pas amené la dernière version pour des raisons techniques. Et on est obligé de modifier. Alors je vais vous le donner dans le bon ordre. Je vais essayer en tout cas. Alors le dimanche matin, c'est 9h30. avec Michel Gaspard, qui va nous parler d'un ouvrage qui est connu d'ailleurs, qui est en tout cas par les spécialistes, qui sont les mémoires de Glückel von Hammel, qui est une femme juive, qui était une mère de famille, qui était aussi une commerçante, qui a vécu au XVIIe siècle, donc à peu près à l'époque de Louis XIV, qui a vécu en Allemagne, et qui a terminé sa vie à Metz. Et ce destin, on le connaît pourquoi ? On le connaît grâce aux mémoires qu'elle a écrites. Elle avait fait son autobiographie. Et ce document, qui est un document rare, qui est un document essentiel, qui est l'une des premières autobiographies féminines, eh bien, il a été traduit à plusieurs reprises. Et Michel Gaspard l'a repris, l'a traduit en français, avec un certain nombre de notes, avec un certain nombre d'introductions. Et donc, il viendra nous parler de Glückel von Hammel. Ensuite, on va rester dans la région avec Claude-Alexis Gras, qui lui a une autre démarche. Claude-Alexis Gras s'occupe du cimetière de Westhoffen. Alors, il fait des recherches dans le cimetière de Westhoffen. Alors, une grande partie, le cimetière de Westhoffen est l'un des plus anciens d'Alsace. Alors, quand vous êtes dans le cimetière, il y a un endroit qui est vide. C'est la partie ancienne. Il n'y a plus de tombe. Sauf que certaines tombes sont toujours présentes, mais elles sont sous le sol, ou d'autres sont intégrées, ont été intégrées dans les murs. Donc, M. Gras a détruit le mur d'enceinte, a retrouvé des pierres, et notamment, il a retrouvé une pierre, qui est celle d'Itele Brill. Alors, cette pierre, il l'a lue, il l'a déchiffrée, puis il ne s'est pas contenté de la lire et déchiffrer. Il a réussi à reconstituer en grande partie la vie d'Itele Brill, qui pour nous est une inconnue, mais qui à l'époque faisait partie de l'élite juive, et qui était liée à toutes les grandes familles juives d'Allemagne, et qui est venue s'installer à Westhoffen, qui a vécu à Westhoffen, et qui est décédée et enterrée à Westhoffen. Voilà, un destin, XVIIe siècle, d'une femme juive, et ça nous apprend des tas de choses sur les mariages, sur les déplacements des juifs et des juives, à cette époque-là, dans ce qui était la France. Et on finira... Le matin, on finira avec Annie Bloch. Avec Annie Bloch. Non, je bouleverse, moi je bouleverse. Annie Bloch qui nous parlera de Ève et les siens, c'est-à-dire elle va nous parler de l'histoire de sa mère. Et donc à travers l'histoire de sa mère, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, on va parler essentiellement du thème de l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes dans la société française et aussi dans la société juive. Alors là, on a fini le matin. Entre-temps, on aura mis la fin de la matinée consacrée à la remise de prix, puisque la Céjal veut encourager un certain nombre de démarches. D'une part, des démarches de recherche. Alors on a un prix qui s'appelle le prix Céjal du jeune chercheur, prix Brigitte Kahn. Ce prix, il est destiné à encourager des étudiants en maîtrise à faire un travail sur l'histoire juive. Et on aura cette année deux récipiendaires. Il y aura d'une part Madame Louise Gedge, qui a travaillé sur le convoi 64, qui était donc un convoi de déportés qui est parti de Drancy à direction d'Auschwitz, dans lequel se trouvaient un certain nombre d'Alsaciens et d'Alsaciennes. Et donc, elle en rendra compte. Et on aura également Jean-François Delaporte, qui lui a travaillé sur les traductions juives du Pentateuque, et notamment sur l'œuvre du grand rabbin Vogue, qui a été au XIXe siècle l'un des grands traducteurs de la Bible de l'hébreu en français, avec une édition qui malheureusement aujourd'hui peu disponible, mais qui est extrêmement riche en termes de notes linguistiques, de notes historiques, et qui permet d'entrer dans le texte. Et puis un deuxième axe de ces prix, c'est le prix du patrimoine, le prix Marianne Lévy du patrimoine, qui est un prix que nous décernons chaque année à une personne ou un groupe de personnes qui se battent pour faire vivre et pour protéger le patrimoine juif alsacien. Et donc cette année, c'est une association qui est bénéficiaire de ce prix, une association alors du Haut-Rhin, on se délocalise aussi, une association de Haut-Rhin, alors qui s'occupe d'un petit village, qui se trouve dans un petit village qui s'appelle Lümschwiller. Alors Lümschwiller, ça ne dira rien à personne, et pourtant, à Lümschwiller, il y a deux choses qui sont absolument extraordinaires que cette association a mis en avant. Il y a d'abord un cimetière dans la forêt, pas un grand cimetière, une centaine de tombes, qui étaient perdues dans la forêt, que cette association a entretenu, a nettoyé, a non seulement entretenu et nettoyé, restauré, mais également a pris la peine de relever l'ensemble des inscriptions qui étaient sur les tombes, de les faire traduire, et grâce à notre ami Raphaël Armand, eh bien, on a aujourd'hui non seulement l'identité de ces personnes, mais bien plus que leur état civil, on a leur relation familiale, et on a pu ainsi reconstituer toute une histoire. Et Lümschwiller, si on passe dans Lümschwiller, un tout petit village, il n'y a rien de juif qui apparaît. Et pourtant, ils ont découvert dans une grange les traces d'une synagogue du XVIIIe siècle. Alors, il ne reste pas grand-chose, mais il reste quand même des peintures. Alors, deux types de peintures, des prières qui sont écrites sur les murs et des peintures qui étaient sûrement au-dessus de l'Arche Sainte et qui représentent des lions de Juda portant la couronne de la Torah. Et justement, alors là, il y a encore tout un travail à faire, parce que cette synagogue, qui doit dater du début du XVIIIe siècle, pose la question de la place des femmes dans la synagogue, parce qu'elle est relativement petite. Est-ce qu'il y avait une tribune pour les femmes? Quelle était la place des femmes? Comment cette place a été mise en place? Voilà, ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, parce qu'il faudrait pouvoir faire des études, demander à des archéologues de travailler là-dessus, des architectes de travailler là-dessus, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Et là, on aura fini notre matinée. Et on pourra aller déjeuner.
C'est important de déjeuner.
C'est important.
On l'entend bien.
Et après, Aude-Marie Certain, oui, enfin, Aude-Marie Certain, elle fera l'ouverture. Non, ce n'est pas elle qui fait l'ouverture. C'est M. Baumgarten qui fait l'ouverture. Alors là aussi, c'est plutôt une intervention thématique. M. Baumgarten est un spécialiste, entre autres, de tout ce qui est imprimerie juive. Et donc, il a travaillé sur les imprimeries juives, notamment dans la vallée du Rhin. Et à travers son ouvrage et ses recherches, il s'est interrogé sur l'existence d'une littérature pour les femmes dans le monde juif. On connaît, on ne connaît pas, un ouvrage qui s'appelle le Tzedrene, qui était un ouvrage que l'on trouvait dans la plupart des familles juives et qui était censé s'adresser aux femmes. Est-ce qu'il y a vraiment une littérature juive pour les femmes, ou est-ce que les femmes maîtrisait suffisamment l'hébreu pour pouvoir lire directement dans un roumage, dans un pentateuque, le texte en hébreu. Voilà encore des questions qui sont ouvertes. Et enfin, vous l'avez compris, Aude-Marie Certain intervient ensuite. Et elle va nous replonger dans un destin, puisqu'elle va parler de Hannah von Eningen, encore une femme inconnue, et qui pourtant, malheureusement, a vécu une très mauvaise période, puisqu'elle a vécu au XIVe siècle, dans cette période de persécution. Et elle a été elle-même persécutée, torturée, notamment à Célestat. Et donc, on va retrouver son destin, qui est celui d'une femme juive, mais représentatif finalement du destin de l'ensemble des communautés juives de la vallée du Rhin, dans cette période qui a suivi la Grande Peste. Et puis, on ne pouvait pas manquer, puisqu'on est à Strasbourg et qu'on est rue Richler, on ne pouvait pas manquer d'évoquer une femme, parce qu'on parle toujours des hommes, mais d'une femme qui est connue, ou moins connue en tout cas que son mari. Nous sommes rue du grand rabbin René Richler, qui était le dernier grand rabbin d'Alsace, de Strasbourg et d'Alsace avant 1939. Mais il avait une épouse qui s'appelle Simone Richler, et qui a partagé son destin tragique, mais qui n'était pas simplement une épouse ou la mère de celui qui va intervenir, de M. Richler, Alain Richler qui va intervenir, mais qui a également joué un rôle et que l'on redécouvre ensuite, tardivement peut-être, à côté de son mari, et n'est pas simplement la femme du grand rabbin, mais c'est aussi une personne en tant que telle. Et enfin, ça c'est la dernière, on a réussi à voir également Marie Brunette Spire, qui a publié une correspondance, celle d'une dame qui s'appelle Brunette Kahn, qui est une femme du 19e siècle. Alors là, on est du côté plutôt 1830-1840, une femme juive d'une famille lorraine, assez bien installée, et qui va être obligée, pour des raisons de santé, d'aller dans le Midi, et qui va entretenir une correspondance avec son mari. Et donc, à travers cette correspondance, eh bien, on va découvrir la place d'une femme dans la société juive lorraine au début du 19e siècle. Et après, on aura fait ça, on aura malheureusement fait qu'effleurer l'iceberg de ce qu'on aurait également pu traiter, parce qu'il y a d'autres destins tout aussi intéressants que malheureusement on n'aura pas le temps d'évoquer pendant ce colloque.
Plein d'autres colloques et plein d'autres conférences qui peuvent être tenues ici. Norbert Schwab, écoutez, on a fait le tour de façon très précise de ce programme du 47e colloque de la Céjal, donc qui aura lieu les 7 et 8 février.
Si je peux ajouter encore quelque chose, je veux juste dire qu'on a un projet, j'ai un projet en ce moment que je mène avec des élèves de la troisième fille de l'école Akiba, auxquels j'ai demandé de faire un travail un peu similaire sur justement une femme de leur famille qui est venue ou qui a vécu en Alsace. Et donc, je pensais qu'on aurait peut-être l'occasion de ce colloque de les entendre. Je crois qu'elles n'ont pas encore totalement terminé. Mais si vous m'invitez, et si vous les invitez, je viendrai avec elles pour faire une émission entière pour parler justement de destin de femmes qui sont venues s'installer en Alsace, ou qui ont vécu en Alsace et qui sont leur mère, leur grand-mère, leurs arrière-grand-mères.
Très belle idée. Merci Norbert Schwab de cette proposition. Plus proche de nous, 7 et 8 février, c'est le 47e colloque de la Céjal, une thématique autour des femmes dans la société juive d'Alsace. Lorraine, vous l'avez compris, un programme dense, mais il y a moyen évidemment de le trouver sur les réseaux sociaux et sur le site de la Céjal. Merci Norbert Schwab.
Merci Valérie.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.